France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Merci d'être à l'écoute de France Culture, de questions du soir. En particulier, il est 19h. Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. L'Assemblée a rejeté ce soir le projet de loi de finances 2025, la partie recette du budget. Un rejet massif, 192 voix pour, 362 voix contre. Le texte avait été largement réécrit par la gauche qui avait introduit de nouvelles taxes. Les 192 députés qui ont voté pour sont d'ailleurs issus du nouveau Front Populaire. En face, les quatre groupes de la coalition gouvernementale et le Rassemblement National ont voté contre un projet dénaturé selon la majorité. À Bruxelles, le Parlement européen termine en ce moment les auditions des candidats au poste de commissaire européen avec en point d'orgue les poids lourds proposés pour les vice-présidences de la Commission. Après l'Italien Raffaele Fitto ce matin, c'était au tour du Français Stéphane Séjourné de faire face aux eurodéputés cet après-midi. Une audition très technique, Fabien Cazot, pour le candidat au portefeuille de la prospérité européenne et de la stratégie industrielle.
Stéphane Séjourné a voulu prouver sa maîtrise des sujets économiques et industriels que contient son portefeuille de futur commissaire. Encore en attente de confirmation, il souhaite s'inscrire dans la continuité des grandes politiques européennes déjà engagées, notamment le Green Deal avec ses objectifs de décarbonation de l'industrie européenne.
Si vous me faites confiance, je présenterai dès le début 2025 un pacte pour l'industrie propre. Ce pacte posera les jalons d'une politique industrielle adaptée à notre temps. Il faut décarboner et industrialiser en même temps. Il n'y a pas d'industrie sans décarbonation, il n'y aura pas de décarbonation sans industrie.
Un en même temps très macronien, tout le monde se souvient ici à Bruxelles comment l'Élysée a poussé in extremis la candidature de Stéphane Séjourné en septembre dernier. En haut de la liste de ses dossiers prioritaires, le marché automobile européen en panne avec sa difficile conversion aux véhicules électriques.
Technologiquement, les Américains et les Chinois ont pris une longueur d'avance. Et c'est pas normal aujourd'hui que des entreprises chinoises veuillent s'installer en Europe pour ouvrir des usines là où nous, on enferme.
Le soutien à la voiture électrique passera par le soutien de la demande, estime le candidat commissaire français, qui a notamment évoqué lors de son audition des dispositifs comme le leasing social pour les particuliers ou encore le verdissement des flottes automobiles dans les entreprises.
Fabien Cazot, correspondant de France Culture à Bruxelles. La crise politique en Allemagne débouche sur des élections législatives anticipées. Le chancelier social-démocrate Olaf Scholz va se soumettre à un vote de confiance du Bundestag, le Parlement allemand, le 16 décembre prochain. Vote qu'il devrait perdre car sa coalition a éclaté après le départ des libéraux. Conséquence des législatives prévues le 23 février prochain. Les conservateurs de Friedrich Merz se sont donnés favoris du scrutin avec 33% environ des intentions de vote. L'AFD, le parti d'extrême droite, est juste derrière à environ 20%. L'église d'Angleterre dans la tourmente. Justin Welby, le chef spirituel des Anglicans, a présenté sa démission aujourd'hui et cela quelques jours après la publication d'un rapport qui accuse l'Église d'avoir étouffé un scandale d'agression physique et sexuelle. Un avocat lié à l'institution britannique est accusé d'avoir agressé plus de 130 jeunes garçons et l'archevêque de Canterbury, qui était au courant selon le rapport, n'a pas prévenu les autorités. 19h03 sur France Culture, question du soir, deuxième partie, les idées bien sûr quant à la fée.
Bien sûr, merci beaucoup Stanislas Vazak, seconde partie consacrée effectivement à l'actualité des idées et de la recherche. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au livre de politique.
France Culture, question du soir, Quentin l'a fait.
Samedi dernier, Jordan Bardella a fait paraître son premier ouvrage intitulé « Ce que je cherche » aux éditions Fayard, récemment acquise par Vincent Bolloré. Une parution qui a fait beaucoup parler d'elle avant même d'être installée sur les rayons de librairie, notamment à cause de l'accusation de censure portée contre la régie d'affichage Mediatransport qui n'a pas autorisé le déploiement de publicité du livre en 4 mètres par 3 dans les gares au nom de la neutralité politique qui fait partie de son règlement. Une excellente opération de communication pour le jeune président du Rassemblement National, 29 ans, qui prend le temps d'un livre pour se raconter. Alors, comment cet ouvrage, tiré à 150 000 exemplaires, pousse-t-il les limites du marketing littéraire des politiques? Et au-delà du quart Bardella, quels sont les liens entre politique et littérature pour tenter de répondre à ces vastes questions? Christian Lebar, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Rennes. Vous avez dirigé l'ouvrage intitulé « Les livres des politiques » qui est paru en 2023 aux presses universitaires de Rennes. Et vous venez de sortir en septembre dernier ce livre intitulé « La politique à l'envers » chez CNRS Audition. Merci d'être avec nous ce soir à Question du Soir.
J'explique dans ce bouquin que je me retrouve aujourd'hui dans une situation singulière parce que normalement, quand on a mon âge, on se retrouve pas tous les jours sur des plateaux de télé à parler de politique. J'ai rencontré le président Zelensky au Parlement européen il y a quelques jours. J'ai eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises avec le président de la République comme chef de parti. Et c'est vrai que je me suis retrouvé très tôt plongé dans le grand bain de la vie politique. Et c'est pas une autobiographie. J'en ai assez d'être attaqué, d'être poussé un peu dans mes retranchements dans le débat public sur des idées qui ne sont pas les miennes. Et je pense que mon mouvement politique, mes idées, comme la situation de notre pays, on arrive aujourd'hui à la croisée des chemins. Et je pense que pour réconcilier les Français avec la politique, il faut donner de soi. C'est ni une autobiographie, ni un livre-programme. C'est un témoignage.
Jordan Bardella, le jeune président du Rassemblement National, il était l'invité de l'émission « Quelle époque ?» sur France 2. Christian Lebar, est-ce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel chez cet homme-là qu'on vient d'entendre, ou est-ce qu'au fond c'est le fait qu'il soit peut-être considéré comme commun qui le pousse à écrire un livre ?
Alors je dirais, ce qu'il y a de relativement exceptionnel, c'est quand même que, comme vous l'avez rappelé, il a 29 ans. Ce qui est exceptionnel, en fait, c'est sa trajectoire, hein, relativement accélérée. Il est devenu leader partisan très jeune. Il a été tête de liste européenne avec le succès que l'on sait très jeune. Donc, il a acquis précocement le statut de personnalité politique. Après, une fois ce statut obtenu, qu'il passe par la case livre politique, ça, pour le coup, ça n'a absolument rien d'exceptionnel. C'est même le contraire qui serait étonnant. Par les temps qui courent, toute personnalité politique un peu visible se doit de tenir son rang en publiant des livres politiques et en particulier en publiant des livres nourris de ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire à la fois se présenter et éventuellement esquisser une ligne programmatique, des réformes à faire, etc.
Que faut-il penser de l'idée qu'un livre révèle la personne qui le signe? Jordan Bardella expliquait dans la même émission que beaucoup le considéraient comme lisse ou comme ambitieux, qu'il voulait révéler une autre part de lui-même. Est-ce qu'il faut compter sur un livre politique pour mieux comprendre les politiques?
Alors je crois que personne n'est dupe, hein, ni pour lui ni pour les autres. Ça fait partie des... Je parlais de passage obligé tout à l'heure, ça fait partie des rhétoriques obligées aujourd'hui que de renvoyer à l'authenticité, à une présentation de soi vraie, qui est-ce que je suis vraiment, révélation des coulisses, etc. Tout cet univers-là est censé être un peu l'envers de l'univers politique, c'est-à-dire un univers de théâtre, un univers de masque, un univers de forme institutionnelle. Donc clairement, les personnalités politiques aujourd'hui doivent exister sur les deux terrains en même temps, hein, l'excellence dans le rôle et puis aussi la capacité à exister comme personne, comme personnalité, et lui, clairement, il va se situer sur ce deuxième terrain. Sa singularité, c'est peut-être jusqu'à présent un déficit sur ce deuxième terrain, parce que il avait cette image un peu lisse de bon élève, de produit d'un parti politique assez classique, un peu à l'ancienne, je dirais, avec des éléments de langage, un profil un peu lisse à l'image de ses costumes. Donc il y avait l'idée qu'il y avait peut-être un déficit sur le terrain de l'incarnation ou de la personnalité.
Est-ce qu'il y a une dimension inédite dans le dispositif qui entoure, qui encadre même, j'allais dire, le lancement de ce livre? On l'a dit, un premier tirage de 150 000 exemplaires, c'est absolument colossal. L'ensemble des relais, hein, cette chaîne qui appartient au groupe Bolloré, pour permettre de les distribuer, est-ce que cela c'est nouveau ou on a des exemples dans le passé qui ont déjà illustré un dispositif de telle ampleur?
Non, c'est un dispositif totalement inédit, hein, totalement inédit, qui est lié au parrainage Bolloré que vous avez évoqué. Ce qu'on avait jusqu'à présent, c'est d'abord des maisons d'édition qui, de façon assez, assez stratégique, vont chercher les personnalités politiques les plus en vue, hein, avec un brouillage, par exemple, des ancrages partisans des maisons d'édition, hein, le temps n'est plus où certaines maisons d'édition publiaient les hommes de droite, les hommes politiques de droite, et les politiques de gauche. Il y a eu
à partir ce temps-là est révolu.
Oui, à partir des années 90, on a eu un brouillage et des stratégies un peu attrape-tout des maisons d'édition.
Pourtant, Jordan Bardella expliquait lui-même que beaucoup de maisons d'édition avaient refusé de le publier, avaient refusé de le faire paraître.
Oui, effectivement, sauf pour le Rassemblement National ou le Front National avant, qui était effectivement tenu à la marge du système éditorial. Mais les ouvrages les plus attendus, c'était ceux des chefs d'État, c'était ceux des favoris à l'élection présidentielle. Donc voilà, c'était des ouvrages que les maisons d'édition s'arrachaient parce qu'on savait très bien qu'ils se vendraient très bien. Là, c'est pas le cas. Enfin, je veux dire, le statut de Jordan Bardella n'est pas du tout en rapport avec le plan média qui a été orchestré.
On se doute bien que écrire un tel livre pour un responsable politique, l'enjeu premier, ce n'est pas d'acquérir de la notoriété. Au fond, même s'il se vend à 150 000 exemplaires, cela reste peu au prisme de la population française. Alors, quel est l'objectif ? C'est d'acquérir de la légitimité, de la crédibilité, encore autre chose ?
Visibilité, notoriété, crédibilité, légitimité, moi j'ajoute présidentiabilité, parce que à l'horizon de ces stratégies, il y a très clairement l'idée d'exister dans le petit cercle des personnalités politiques auxquelles on va songer à l'échéance de la présidentielle qui est dans toutes les têtes et qui surdétermine beaucoup des stratégies de publication, alors y compris de la part de gens qui ne seront finalement pas candidats ou obtiendront des résultats très, 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 très modestes. Mais en tout cas, l'imaginaire présidentiel, c'est-à-dire cet imaginaire qui est caractérisé par la relation directe entre un homme, disait-on, au début de la Ve République, et un peuple, un homme ou une femme aujourd'hui, et un peuple.
Un homme qui rencontre un peuple.
Un homme qui rencontre un peuple, eh bien, c'est bien cet imaginaire-là qui est sollicité par le genre éditorial, et en particulier dans sa dimension de confession, d'autobiographie, de révélation de la personnalité au-delà des rôles.
Pourquoi dites-vous, Christian Lebar, pourquoi écrivez-vous plutôt qu'un livre signé d'un responsable politique ? Ça lui permet également de faire profil bas. Qu'est-ce que cela signifie, cette expression « faire profil bas » ?
Alors, faire profil bas, c'est aussi l'idée selon laquelle les politiques vont le temps dans ces ouvrages vont éventuellement prendre quelques distances par rapport à l'exemplarité institutionnelle. Hein. Le livre politique, on se souvient par exemple de la tentation de Venise d'Alain Juppé dans les années 80, c'est aussi le moment où on va dire je ne suis pas seulement ce politicien acharné à la conquête du pouvoir ou toujours dans l'exemplarité que vous croyez. Je peux être aussi un individu multiple, hein, et un individu multiple, ça veut dire je peux avoir des problèmes de santé, voilà, j'ai une jeunesse, j'ai d'autres vies, j'ai des loisirs, voilà, je suis une personnalité plurielle. Et évidemment, ces aveux de faiblesse, parce qu'on est quasiment sur le registre de la faiblesse. On a des politiques qui vont dire « je ne sais pas tout, j'ai pas la réponse à toutes les questions, j'ai changé, etc. » Ces aveux de faiblesse, évidemment, il faut pas en être dupe. Ce sont des stratégies de montée en présidentiabilité, parce que derrière cette faiblesse, il y a bien l'idée d'une épaisseur humaine, il y a bien l'idée d'une incarnation. Donc, il y a des arrière-pensées, bien sûr.
Je voudrais que l'on quitte un moment l'exemple Bardella plutôt, et s'intéresser, faire un détour par l'histoire. Pourquoi écrivez-vous là encore que le 19e siècle est le temps béni des auteurs politiques ? Qu'est-ce qui a basculé lors de ce siècle-ci ?
Effectivement, au 19e siècle, le champ politique n'était pas autonomisé, professionnalisé, ou pas de la même façon qu'aujourd'hui. Et on pourrait dire un peu la même chose du champ littéraire. Donc, il y avait autour d'une connivence de classe. Hein, on parlait de la grande bourgeoisie, de l'aristocratie, des élites lettrées. Il y avait effectivement ce possible passage du registre littéraire au registre politique, dont les symboles sont bien connus. C'est Lamartine, Lénine, poète national et candidat à l'élection présidentielle en 1848. C'est Victor Hugo, c'est Chateaubriand avant, etc. Voilà, et puis ça perdure pendant assez longtemps, mais on se souvient que, par exemple, quelqu'un comme quelques décennies plus tard, au XXe siècle, hein, Léon Blum, par exemple, pour devenir une figure politique, doit renoncer, en quelque sorte, à une carrière littéraire qu'il avait esquissée avant d'entrer en politique. Donc, voilà, il y a une professionnalisation des métiers politiques qui oblige à renoncer à la littérature. Mais on ne renonce pas pour autant au goût de la littérature, voire à la fascination pour la grandeur littéraire.
On va y revenir, évidemment. Je reste un instant tout de même au XIXe siècle, lorsque Lamartine publie des ouvrages, des livres à dimension politique. Est-ce que cela a la même fonction qu'aujourd'hui ? Est-ce que l'objectif plus ou moins dissimulé, c'est également de révéler aux autres ce que l'on croit pour soi-même, c'est-à-dire avoir un destin présidentiel ?
Je suis pas sûr, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas d'élection présidentielle après 1848.
Destin national, disons alors.
Destin national, je suis pas sûr. Je pense que la presse, faudrait interroger un historien, je pense que la presse joue un rôle beaucoup plus important. Pas mal de personnalités politiques de la Troisième République écrivent des histoires de la Révolution française, par exemple. C'est un peu un point de passage obligé. C'est un détour quand même assez long. Hein, c'est un détour. Je pense qu'il leur est plus facile d'exister par la presse et par la presse écrite, je pense. Oui.
Vous avez commencé à le dire. Au XXe siècle, les choses se transforment légèrement. À part quelques cas comme Aimé Césaire, comme André Malraux également, naît peu à peu une incompatibilité entre la fonction politique et la fonction littéraire. On ne peut pas être les deux à la fois, être un grand écrivain et un grand responsable politique. Expliquez-nous pourquoi, là aussi.
Bah parce que la politique s'est professionnalisée. Voilà, les politiques passent par Sciences Po, l'ENA, et pas forcément par ce qu'on appelait sous la Troisième République les humanités. La politique se fait de plus en plus technicienne. Voilà, et donc la culture littéraire est apparaît un peu déplacée ou désuète. Et puis, du côté de la littérature aussi, il y a aussi des évolutions qui portent plutôt la littérature vers l'introspection. Le grand écrivain moderne, c'est Proust, c'est pas Zola. Et donc, du coup, voilà, ces deux univers vivent leur vie séparément, mais avec effectivement des moments de rencontre, des contre-exemples. Aimé Césaire, poète de la négritude, et en même temps élu local, Malraux ministre, etc.
Mais ce qui n'est pas aussi dans le champ littéraire, une méfiance à l'égard des responsables politiques qui se mettent à écrire, qui se mettent à faire de la littérature. C'est vrai que c'est plus difficile d'être entier, d'être sincère, d'être complet lorsqu'on fait de la politique, parce qu'il est difficile de se livrer totalement.
Il y a de l'ironie et de la méfiance des deux côtés. C'est-à-dire, du côté, effectivement, des écrivains du champ littéraire ou de la critique littéraire, on va se moquer des romans de Valéry Giscard d'Estaing, on va éventuellement s'agacer de la publication des mémoires de guerre du général de Gaulle dans la Pléiade ou qui soit mis au programme de français du bac. Donc, bon, les politiques seraient de faux écrivains, en quelque sorte. Hein. Et du côté des politiques, on ne va pas non plus, dans l'autre sens, être fasciné par les écrivains, y compris les écrivains engagés, qu'on renvoie volontiers à l'utopie et à leurs livres.
Bon, dans tout ça, il y a peut-être une exception, c'est toujours la même dans l'histoire du XXe siècle, en France. C'est le général de Gaulle dont on va entendre l'extrait d'un texte. Il est lu, par ailleurs, par Alain Delon.
À mesure que l'âge m'envahit, la nature me devient plus proche. Chaque année, en quatre saisons qui sont autant de leçons, sa sagesse vient me consoler. Elle chante au printemps, quoi qu'il ait pu jadis arriver, je suis au commencement. Tout est clair malgré les giboulées, jeune, y compris les arbres rabougris, beau même ces champs caillouteux. L'amour fait monter en moi des sèves et des certitudes si radieuses et si puissantes qu'elles ne finiront jamais. Elle proclame en été, quelle gloire et mes fécondités. À grand effort sort de moi tout ce qui nourrit les êtres. Chaque vie dépend de ma chaleur. Ces grains, ces fruits, ces troupeaux qui inondent à présent le soleil, ils sont une réussite que rien ne saurait détruire. Désormais, l'avenir m'appartient.
C'est beau ce texte lu en 1995 lors de la retransmission de la cérémonie du 25e anniversaire de la mort du général de Gaulle depuis l'esplanade des Invalides. Christian Lebar, qu'est-ce qui change avec les publications des mémoires de guerre du général de Gaulle? Est-ce que là encore l'ambition est la même, se repositionner dans le champ politique parce qu'il y a eu une traversée du désert, ou c'est encore autre chose, c'est une ambition, là cette fois-ci, d'une dimension littéraire?
Bah, les deux sont pas incompatibles. Oui, clairement, c'est une époque difficile pour le général de Gaulle, et oui, c'est clairement une façon pour lui de rentrer dans le jeu. Hein. Je rappelle que sur les trois volumes des Mémoires de guerre, ils paraissent en 54, 56 et 59, donc c'est le tempo d'un retour au pouvoir qu'il faut peut-être pas non plus surinterpréter. Je veux dire, voilà, il y a aussi d'autres causes, à commencer bien sûr par la guerre d'Algérie. Ce qui est intéressant, c'est que le style du général de Gaulle, est un peu un style hors du temps, hyper classique, qui est assez en phase avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, les figures de Chateaubriand ou d'Hugo, à une époque où on est dans les années 50, la mode est au nouveau roman, donc à des choses qui sont quand même absolument aux antipodes de cela. Donc le souffle épique, hyper classique du général de Gaulle fait de lui un écrivain, mais un drôle d'écrivain quand même, enfin un écrivain en marge et à la marge.
Est-ce que c'est à ce moment-là que figures politiques et figures littéraires deviennent quasiment consubstantielles? On pense au général de Gaulle, mais l'un de ses premiers opposants, François Mitterrand, est aussi dans cette dynamique-là extrêmement littéraire à faire paraître lui aussi des textes de cette nature.
Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est un paradoxe historique, c'est-à-dire que la littérature qui avait été chassée du champ politique revient, et elle revient par une porte et une seule, mais c'est pas n'importe laquelle, c'est la présidentielle, l'élection présidentielle, et la figure du général de Gaulle, fondateur de la Ve République, qui construit une équation très simple à laquelle ses successeurs devront, sur laquelle ils devront s'aligner. Cette équation, c'est le chef d'État doit être imprégné de littérature, il doit être en phase avec la grandeur littéraire, et ça veut dire concrètement qu'il doit être soit un agrégé sachant écrire comme Georges Pompidou, soit un amoureux des livres et des écrivains comme François Mitterrand, parvenant même à se donner à voir comme écrivain empêché, hein, je renvoie au très beau livre de François Ourmand sur Mitterrand, écrivain, point d'interrogation, écrivain ou essayant de l'être, hein, c'est tout le malheur de Valéry Giscard d'Estaing, ayant des prétentions littéraires, mais souvent accueilli avec ironie, en particulier par la gauche culturelle.
Mais vous écrivez, Christian Lebar, le chef d'État incarnera la France, il sera donc forcément écrivain dans l'âme. On se demande comment a fait François Hollande, lui qui revendiquait de ne pas lire de romans et de lire uniquement des magazines. Comment a fait Nicolas Sarkozy, lui qui avait suscité, une forme de polémique sur la princesse de Clèves?
Oui, alors, mon propos, il valait pour effectivement les premiers successeurs du général de Gaulle. Il y a une cassure, Alors, avec Jacques Chirac.
Avec Chirac ou avec Nicolas?
Non, avec Sarkozy, parce que avec Jacques Chirac, on est encore Chirac qui, dans un premier temps, aime à se présenter comme lecteur de polar, etc. À mesure que l'échéance présidentielle avance, reconstitue un peu son image autour de l'érudition en matière de poésie, par exemple. C'est Chirac, amateur de Saint-Jean de Perse, capable de réciter, etc., etc. Donc, il y a une correction d'image à laquelle Nicolas Sarkozy ne se prêtera pas. Hein. Il se définit comme enfant de la télé, il l'assume. Donc, c'en est terminé de cette littérarité du chef d'État. Enfin, c'en est terminé, pas complètement. Hein. Nicolas Sarkozy reviendra un petit peu sur ce qui manifestement a été une erreur. Hein. La princesse de Clèves, vous l'avez dit, et d'autres sorties un petit peu. Voilà, dans un deuxième temps, il essaiera de montrer une sorte de bonne volonté littéraire en affichant des goûts littéraires plus légitimes. Depuis, ça s'est quand même bien effiloché. Hein.
La voix de Bruno Le Maire, qui lui a la qualité d'être à la fois ministre et auteur de littérature, on l'écoute.
La littérature, c'est ce qui vous donne de la profondeur historique, qui vous permet de savoir d'où vous venez, quelle est votre histoire, quelle est votre culture. Lire du Montaigne, lire du Saint-Simon, du Chateaubriand, ça vous apprend ce qu'est la culture française et d'où vous venez. Et c'est pas un hasard si en France, la culture, la littérature, la politique ont toujours eu partie liée. Les deux sont intimement liés parce que chez nous, la politique se fait d'abord par les mots, par la langue, et parce que en France, le premier lien entre les Français, c'est notre langue.
Pour moi, c'est le lien le plus fort qui existe entre des Français qui habitent en Guyane ou à l'autre bout de la planète, dans les îles Wallis et Futuna, ou dans la Creuse ou en Normandie. Quel est leur point commun? Ils parlent le français. Et ce qui nous rassemble comme peuple, alors qu'il y a tellement de divisions, tellement de déchirures entre nous, c'est notre langue. C'est donc la littérature et la politique.
Bruno Le Maire était l'invité de Public Sénat en 2019. Il est frappant, il est troublant aussi ce discours. Chez nous, la politique se fait par les mots. Ailleurs, c'est différent. Il y a une singularité française de ce lien entre politique et littérature, de ce lien consubstantiel qu'on voudrait bien affirmer.
Alors, la singularité, elle est quand même relative. Hein. On se rappelle que John Kennedy a eu le Pulitzer. On se rappelle que Obama a gagné en notoriété avant d'utiliser les réseaux sociaux par la publication d'ouvrages. On se rappelle que Churchill a eu le prix Nobel de littérature. On se rappelle que Václav Havel a été dernier président de la Tchécoslovaquie. Enfin, voilà, il n'y a pas qu'en France où la grandeur littéraire peut prédisposer à la carrière politique ou même à la grandeur politique, en particulier pour les chefs d'État. Ce qui est quand même relativement singulier dans le cas français, pardon, c'est à la fois la sacralité de la figure de l'écrivain et l'élection présidentielle, hein, cette équation très particulière. Et donc, du coup, la superposition entre lectorat et électorat joue évidemment en ce sens.
On a parlé d'à peu près tout le monde, Christian Lebar, depuis le début de notre conversation, sauf du lecteur. Quel est l'intérêt pour le lecteur de se plonger dans un livre politique? Alors, le général de Gaulle, on peut le comprendre. Les mémoires de Churchill, on peut le comprendre également. Mais de se lancer dans la lecture d'un ouvrage d'un ministre aujourd'hui, d'un parlementaire même.
Alors pour moi, ça reste une énigme. Hein. J'ai pas enquêté sur les lecteurs, j'ai pas enquêté sur les pratiques de lecture, et j'ai même pas vraiment enquêté non plus sur le succès de ces livres. Pas toujours facile d'avoir les chiffres de vente. Bon, incontestablement, il y a une demande citoyenne, hein, et je renvoie encore à l'élection présidentielle en temps de campagne, soit pour les primaires, soit pour l'élection elle-même. Les livres des candidats peuvent se vendre parce qu'on a envie de savoir qui y sont vraiment. Il y a une curiosité pour les coulisses de la vie politique, et je dirais que le contrat d'authenticité qui fonde cette littérature, elle peut faire impression auprès de certains électeurs. En même temps, moi j'observe aussi beaucoup que ces livres, ils disparaissent assez vite. Ils ont une durée de vie quand même très limitée.
On dit parfois qu'ils restaient 3 semaines, un mois dans les librairies.
Moi, j'ai constitué mon corpus à partir d'ouvrages achetés à Emmaüs. Enfin, voilà, des livres qui ne laissent pas beaucoup de traces. Hein. Il faut le reconnaître.
On les trouve aussi beaucoup dans les brocantes. Je l'ai remarqué. Sur la banalisation des publications, je voudrais vous citer Christian Lebar. Vous écrivez « La banalisation a un revers. Si la littérature présidentielle a cessé d'être exclusivement présidentielle, elle a aussi cessé d'être principalement littéraire. » Qu'est-ce que vous voulez dire dans ce sens ?
Parce que, effectivement, à partir depuis une vingtaine d'années, il y a une banalisation du livre politique, puisque, en gros, toute personne qui a des arrière-pensées présidentielles ou qui éventuellement veut travailler à moyen terme sa présidentiabilité, et ça fait du monde hein, dans le champ politique français, il va de son livre politique. Et tous ces gens-là n'ont pas de formation ou de talent ou de disposition littéraire. Donc on sait les effets pervers que tout cela a. Il y a beaucoup de politiques qui ne trouvent pas d'éditeurs, il y a beaucoup de politiques qui n'écrivent pas eux-mêmes leurs livres politiques, et il y a beaucoup de livres politiques qui ne se vendent pas. Et quand je dis « vendent pas », c'est pas vraiment très très peu. Donc il y a une espèce de démonétisation du livre politique. Il y a des livres politiques qui n'ont vraiment aucun intérêt. Hein.
Justement, quelle est la place des plumes de ces personnes qui sont payées pour écrire les livres des responsables politiques? Ce sont souvent des commandes. Souvent, le public sait qu'un livre qu'il est en train de lire n'a pas été écrit par la personne qui le signe. Comment, dans ce dispositif-là, les plumes et le rapport avec le lecteur se fait-il, se crée-t-il, ce lien-là?
Oh bah, on est sur un secret de polichinelle. C'est-à-dire, je pense que les lecteurs ne sont pas dupes. Après, il y a toute une... par exemple, dans les ouvertures des livres, ou dans les quatrièmes de couverture, ou dans les préfaces ou les postfaces, il y a souvent, il est fait mention de collaborateurs qui nous ont aidés, etc. Bon, il y a l'idée que les politiques ne sont pas des auteurs, qui sont accompagnés, mais du coup, évidemment, ça ouvre aussi la voie des stratégies de distinction chez des gens qui, comme Bruno Le Maire, par exemple, peuvent revendiquer le fait que eux sont de vrais auteurs, qui tiennent la plume, qu'ils ont un style, et que donc ils se tiennent au-dessus de la mêlée, ce qui est l'objectif, bien sûr.
Et même si Jordan Bardella, lui, a juré qu'il avait écrit lui-même son ouvrage. Merci beaucoup, Christian Lebar. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Rennes. Vous avez, je le rappelle, dirigé l'ouvrage intitulé « Les livres des politiques » qui a paru l'an dernier aux presses universitaires de Rennes. Et vous venez de sortir en septembre dernier « La politique à l'envers » au CNRS édition. J'en profite également pour remercier tous les membres de cette équipe de questions du soir. Stéphanie Villeneuve, Mathias Mégy, Bertie Bourdon, Fanny Richer, Pascaline Bonnet, Florian Le Calvez. À la réalisation, c'était François Richer.
Vous êtes bien sur France Culture.
Ils sont 6, ils ont 20 ans, viennent de Douarnenez et partagent pendant un an leurs premiers pas dans la vie d'adulte dans des messages vocaux. Comme dans un carnet intime sonore.
Et c'est aussi le premier jour où je suis toute seule dans mon appart, parce que mes parents donc, sont partis hier soir.
À nos 20 ans, une série documentaire en 20 épisodes de Tony Ayer, réalisée par Gilles Mardi-Rossian, sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
C'est à Bakou, en Azerbaïdjan, que s'ouvre ce lundi la COP29, le Caucase au centre du jeu. C'est notre série cette semaine.
Julie Gacon.
Nous parlerons de Bakou qui se rêve en Dubaï, de l'Arménie qui négocie un traité de paix, mais à quel prix ? Du pacte dangereux entre la Tchétchénie et Moscou, enfin de la Géorgie après les élections du 27 octobre, la fin du rêve européen.
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Et c'est Ruben Carmazine qui nous a accompagné toute la soirée à la technique. Tout de suite, le deuxième épisode de Benoît Peters à voix nue. Il est romancier, biographe. Il est interrogé par Victor Massé de l'Épinay.
À voix nue, Victor Massé de l'Épinay.
Benoît Peters, auteur.
Deuxième épisode de Roland Barthes au roman photo. Benoît Peters, hier nous avons parcouru brièvement votre enfance, votre jeunesse et votre plongée dans un monde qui s'appelait la modernité, qui vous a conduit à publier tout jeune dans la revue Minuit et aux éditions de Minuit, à faire ainsi la connaissance de Jérôme Lindon, de Jean Ricardou, d'Alain Robbe-Grillet et d'autres personnalités très en vue de la fin des années 70. Aujourd'hui, c'est avec un autre personnage phare de cette modernité que je voudrais ouvrir cette émission, un personnage que vous avez brièvement évoqué hier et qui a énormément compté pour vous. Je parle de Roland Barthes. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord comment vous l'avez rencontré ?
Je pense que j'avais un certain culot, tout jeune homme, et que les gens que j'admirais, que je lisais passionnément, j'avais envie de les rencontrer. C'est d'ailleurs assez étrange parce que c'est une période où la mort de l'auteur, titre d'un article célèbre de Barthes, était un peu dans toutes les têtes des modernistes, et où l'approche personnelle, l'approche biographique était fortement remise en cause. Je ne partageais pas cette idée. Mais rencontrer quelqu'un comme Barthes, c'était rencontrer quelqu'un qui, quel que soit son discours et son idéologie, parfois anti-biographique, était une personnalité extraordinairement rayonnante, extraordinairement puissante. Je repense d'ailleurs à ces gens, à Lacan bien sûr, avec ce séminaire qui était un moment théâtral exceptionnel. Je repense à Robbe-Grillet avec son ego quelque peu démesuré. Et Barthes, même s'il était beaucoup plus en retrait, semblait un personnage d'une puissance personnelle très forte. Donc je lui ai écrit, je lui ai adressé le premier texte que j'avais publié, et il était d'une très grande générosité avec beaucoup de gens, hein, pas seulement avec moi, et donc très vite a proposé un rendez-vous. Enfin, d'abord, il répondait aux lettres, et puis il proposait un rendez-vous, et assez vite, je lui ai dit, j'aimerais assister à votre séminaire de l'école pratique des hautes études, rue de Tournon. Alors, il me dit, oui, vous savez, je vais entrer au Collège de France, donc je ne prends plus vraiment d'étudiants, mais si vous voulez, vous pouvez venir en auditeur libre. Et donc, j'ai participé pendant une année en auditeur libre à ce tout petit groupe de gens extrêmement différents les uns des autres, mais autour de ce maître qui ne jouait pas la figure du maître et qui rassemblait des personnes qui peut-être ne trouvaient pas leur place dans l'université traditionnelle.
Et est-ce qu'on faisait connaissance? Est-ce que vous avez fait connaissance avec les autres? C'était une sorte de famille ou c'était des monades comme ça autour du maître?
Petit à petit, on se rencontrait à la fin des cours. C'était une année aussi très particulière parce que la mère de Barthes était de plus en plus malade et à la pause, le séminaire durait 2 heures, il faisait une petite pause et il téléphonait à sa mère et on le voyait revenir avec une mine souriante ou sombre suivant les nouvelles qu'il avait eues. Donc c'était un maître fragile. Mes attentes premières étaient assez théoriques et chaque fois que j'ai essayé d'avoir avec Roland Barthes une conversation sérieuse, elle dérapait. Il posait d'autres types de questions. Au fond, il s'intéressait à ceux qui étaient là, plus qu'au cadre théorique qu'il avait. Alors il disait, oui, ça m'aurait beaucoup intéressé autrefois. Enfin, bref, il était un petit peu ailleurs, mais par contre, très très disponible par rapport aux attentes de chacun. Et lorsque je lui ai dit que je voudrais faire sous sa direction travail de diplôme de l'école pratique des hautes études sur les bijoux de la Castafiore d'Hergé, chose que dans l'université traditionnelle je n'aurais pas pu faire. Au début, il me dit mais pourquoi voulez-vous faire ce diplôme? Vous êtes déjà de l'autre côté. Donc, il faisait allusion à Omnibus, pour lui, quelqu'un qui était engagé, disons, dans l'écriture, dans la fiction, n'avait pas vraiment besoin de cela. J'argumente un petit peu sur Hergé, l'intérêt du projet, et puis à un moment, à court d'argument, je lui dis, vous savez, je crois que ce travail rassurerait beaucoup mes parents. Et alors cet argument annexe, cet argument absolument non théorique est celui qui l'a convaincu, dit oui, c'est une dimension qu'il faut prendre en compte. Et donc j'ai pu m'inscrire, j'ai sans doute été l'un des derniers étudiants à travailler avec lui dans ce cadre, tout en suivant l'enseignement qu'il commençait à dispenser au Collège de France. Et évidemment, je n'ai pas pu terminer sous sa direction ce travail, puisqu'il a été renversé par camionnette et il est décédé quelques semaines après, en mars 1980, ce qui a représenté vraiment un choc, un deuil. Il y avait quelque chose d'inconsolable. À quelques semaines d'intervalle, on a perdu Sartre avec cet immense enterrement et Barthes peut-être de manière un peu plus discrète, mais c'était comme la fin d'une époque. C'était quelque chose qui s'arrêtait et j'ai senti très tôt que la relation que j'avais avec Barthes ne pourrait être remplacée par aucun autre enseignant et que tout en terminant le travail que j'avais entrepris sur les bijoux de la Castafiore et en le faisant homologuer à l'école sans vrai suivi, je passais à autre chose. Ça a été vraiment pour moi un tournant. Et alors, il y a eu cet effet d'après-coup extraordinaire qui fait que la présence de Barthes, pour moi, je pense ne pas être un cas isolé là-dessus, 44 ans après sa mort, cette présence reste extraordinairement vive. Et je dirais que oui, c'est un maître, mais c'est un maître à retardement, à effet posthume. C'est finalement dans l'après-coup que j'ai senti toute la force de ce qu'il disait. Et au fond, peut-être l'effort qu'il faisait par rapport à un jeune homme comme moi pour me désintellectualiser un peu, pour m'amener vers d'autres terrains, du côté de la vie, du côté de l'émotion. Il y a un très beau livre de Colette Fellous qui s'appelle « L'apprentissage de la vie » où elle parle de son rapport avec Barthes. Et très étrangement, alors qu'on arrivait chez lui, avec une attente post-structuraliste, sémiologique, etc., ce qui se dégageait de lui et ce qu'on sort dans la chambre claire, dans le journal de deuil, dans les fragments d'un discours amoureux, c'est tellement autre chose et c'est tellement cela. Et dans le dernier cours au Collège de France, la préparation du roman, oui, il y a vraiment chez Barthes une dimension éthique qui finalement a touché partout dans le monde entier et fait que sa présence reste aujourd'hui ici. Si forte et si universelle.
Mais vous évoquez ce goût de Barthes, ce regard qu'il avait sur la vie. Il n'y a pas de mauvais objet pour lui, tout est digne d'intérêt. Vous étiez déjà prédisposé aussi à ça. Vous êtes passé rapidement sur ce projet de diplôme sur les bijoux de la Castafiore, mais arrivé en 80 avec une idée de travail universitaire sur Tintin, c'est quelque chose d'un peu étonnant dans ce milieu très intellectuel. Tintin, c'est à la fois quelque chose de populaire, d'enfantin, considéré alors comme quelque chose d'enfantin. Puis Hergé, un auteur étiqueté à droite. Barthes a accueilli ça favorablement. Est-ce qu'il connaissait Tintin et comment est-ce qu'il vous a suivi dans ce travail?
Alors, je crois que ce qu'il suivait, c'était la passion d'un étudiant ou d'une étudiante. C'est-à-dire, ce n'était pas l'objet, c'était le regard qu'on portait dessus. Donc je pense que je lui ai peut-être fait lire son premier Tintin, mais immédiatement, il a accueilli le projet de manière positive. Enfin, il n'avait absolument aucun préjugé sur la bande dessinée, même s'il la connaissait peu. Hergé, pour moi, était une lecture de toujours, qui m'avait accompagné dans la petite enfance, dans une enfance plus tardive et pendant l'adolescence, alors que la plupart des livres que j'avais aimés, à un moment ou à un autre, j'avais cessé de les lire. Et donc, cette petite énigme m'est venue vers 18-19 ans, alors que j'étais donc lecteur du nouveau roman et de bien d'autres choses, de me dire, mais pourquoi ça tient? Pourquoi on peut encore le lire, le relire, y trouver une autre nourriture? Et puis, il y avait un autre élément qui me guidait vers ce travail, c'est qu'il n'y avait quasi pas de littérature secondaire. Il n'y avait pas de bibliographie. Je dis à Barthes, ben voilà, il va falloir forger les outils parce qu'on n'a pas grand-chose. Donc ça, je trouvais ça formidable. Aujourd'hui, il y a plus de 600 livres sur Hergé. Donc évidemment, les malheureux qui travaillent sur le sujet doivent commencer par absorber un corpus. Moi, je voulais me pencher sur l'œuvre. Et au fond, Barthes avait fait avec Z une lecture minutieuse et magnifique d'une nouvelle de Balzac, Sarrazine. Et en reprenant un peu sa méthode, je me disais, on va prendre une bande dessinée de la première à la dernière page et vraiment la lire et la regarder et se forger des outils et à partir de ces outils élargir à l'ensemble de l'œuvre. Au fond, je ne voulais pas choisir entre le monde du récit, le monde de la narrativité, même des œuvres populaires, et une exigence moderniste. Je voulais passer de l'une à l'autre, introduire peut-être du populaire dans la culture savante et du savant dans la culture populaire. J'ai à cette époque, avant même d'ailleurs de proposer le projet à Barthes, j'avais écrit à Hergé, que j'ai rencontré, dont j'ai réalisé une longue interview, et cette interview est parue dans la revue Minuit, à côté de Deleuze et Guattari, de Bourdieu, de Beckett, de Tony Duvert, enfin de jeunes écrivains. Donc vous voyez, c'était un impact, c'était quelque chose de très bizarre. Et Jérôme Lindon l'avait accepté, et je pense qu'il y avait chez moi à la fois une petite part de provocation et une petite part d'innocence. J'ai dit que comme je trouvais que Beckett c'était formidable et que Hergé c'était formidable, je ne voyais pas vraiment de problème à ce qu'ils cohabitent dans la même revue. Mais pour beaucoup de gens, c'était juste très très bizarre. Et appliquer une méthode intellectuelle et des grilles de lecture assez sophistiquées à l'œuvre d'Hergé, oui, ça pouvait paraître bizarre, mais moi, ça me paraissait normal, d'une certaine façon. J'ai l'impression que mes petites provocations étaient vraiment liées à un affranchissement par rapport au cadre qui était proposé. Au fond, dans la modernité, je prenais ce qui m'arrangeait, mais je ne voulais renoncer à rien. J'ajoutais avec la modernité, une sorte d'ouvroir, hein, pour reprendre l'idée de l'Oulipo, mais cet ouvroir ne devait s'accompagner d'aucune fermeture et d'aucun interdit, ni sur le récit, ni sur la biographie, ni sur les littératures dites populaires. La question de l'art mineur, de l'art majeur, était une question que je ne comprenais pas. Je ne la comprends d'ailleurs toujours pas.
Mais en un mot, Hergé, lui, est-ce que ça lui apparaissait bizarre de paraître dans la revue Minuit à côté de Beckett et de Rob Grier?
Je ne sais pas s'il a vraiment mesuré. En tout cas, il m'a donné, ainsi qu'à l'ami qui m'accompagnait, Patrice Hamel, un très long moment pour exposer des questions qui étaient parfois un peu provocatrices. Et je me souviens qu'il nous a dit, sur le pas de la porte, comme on le quittait après une longue après-midi, il dit tout d'un coup, « Oui, Vous savez, je crois qu'il y a moyen, à propos de Tintin, d'aller plus loin qu'on ne l'a fait jusqu'ici, à des psychanalystes comme vous de continuer le travail. Bon, nous n'étions pas des psychanalystes, nous étions des gamins, mais nourris d'un certain nombre de références qui n'avaient pas été encore utilisées. Quand Hergé disait le mot psychanalyste, d'ailleurs, ce n'était pas du tout péjoratif, parce que lui-même avait une grande curiosité pour ces domaines. Et donc, je me dis, mais il m'a autorisé, d'une certaine façon, il m'a ouvert la voie, de même que quelques années plus tard, il a suggéré mon nom pour le texte du gros livre qui est devenu Le Monde d'Hergé. Et alors, c'est très étrange, hein, vous évoquiez dans notre précédent entretien les dimensions d'éclectisme de mon travail, mais finalement la dimension de fidélité est énorme, parce que Hergé a compté pour moi Tato, Barthes, le nouveau roman, Derrida même, tous ces gens ont compté très tôt, et au fond j'ai voulu ne renoncer à aucune de ces passions de jeunesse et essayer de les traiter sur un mode autre que nostalgique, d'avoir une ferveur qui soit une ferveur de continuation et pas de répétition.
Oui, toutes ces passions sont mêlées tout au long de votre vie, Benoît Peters. Il y a une de vos passions, il faut peut-être y arriver maintenant, puisque c'est le moment où vous y êtes adonné assez sérieusement. Cette passion, c'est la cuisine, la gastronomie. Comment est-ce que vous êtes devenu cuisinier, en fait?
J'ai découvert la cuisine d'abord à travers l'expérience d'un premier restaurant, le premier grand restaurant, celui des frères Trois-Grois à Roanne, où j'ai eu un éblouissement. Et en sortant, j'ai acheté deux livres, celui des frères Trois-Grois et le livre La Grande Cuisine Minceur de Michel Guérard, plus pour la grande cuisine que pour la minceur. Et je me suis mis à pratiquer dans ma petite chambre d'étudiant à Paris, à essayer des choses. Le livre de Guérard était remarquable pédagogiquement, et assez bizarrement, j'ai progressé très vite. On évoquait Barthes, j'ai eu la chance de souvenir un peu inouï, comme ça, d'avoir dit un jour à Barthes, ça me ferait plaisir de vous inviter à dîner, et donc, un jour de 78 ou 79, j'ai préparé un repas que j'avais composé entièrement à partir des j'aime, je n'aime pas, surtout des j'aime de son livre Roland Barthes, par Roland Barthes, qui faisait qu'à chaque plat, il disait « Ah, mais c'est incroyable, mais c'est quelque chose que j'adore », alors qu'il ne se doutait pas, jusqu'à une bouteille de bousy rouge que j'avais été chercher dans une boutique lointaine, parce que c'était un de ses vins favoris. Et donc, oui, j'ai progressé, et quand je me suis retrouvé à Bruxelles, puisque je suis retourné à Bruxelles pour des raisons surtout sentimentales, mais peut-être aussi d'attachement à cette ville, je suis retourné en 78, et mes parents, mécontents de mon orientation, m'ont à peu près coupé les vivres. Et donc là, je me suis dit, il faut arriver à gagner sa vie tout en écrivant le diplôme. Et donc, j'ai donné des cours de français, enfin, des petites choses comme ça, des petits boulots d'hiver. Mais j'ai aussi une annonce, très imprudemment, en disant « Jeune cuisinier français de talent, prépare vos repas de fête bon, ». C'était français, c'était une dimension objective, de talent, je ne sais pas. Parce que se retrouver chez des gens, dans une cuisine qu'on ne connaît pas, avec des attentes qui n'étaient pas forcément celles de la nouvelle cuisine, à préparer des repas de fête, c'était difficile. Et donc, c'est une expérience finalement plus sociologique que gastronomique que j'ai racontée dans l'album « Comme un chef » avec Aurélia Horita. Mais la passion de la cuisine m'est toujours restée. Voilà, donc, il faut se représenter quelqu'un qui, vers 22 ans, coupe les ponts avec ce qui devrait être sa démarche naturelle, carrière de chercheur ou d'universitaire, et se reconstruit, se construit autrement pour gagner sa vie en bricolant dans différentes directions, et puis qui va réussir à faire de cette passion de l'écriture et de l'image un métier. C'est venu assez vite par une série de coups de chance et par une énergie un peu tous azimuts aussi que j'avais quand on est très jeune comme ça. On ne choisit pas tout à fait, on ne sait pas vraiment ce qui va compter et ce qui sera oublié. On œuvre avec force pour, essayer, éprouver des choses dans plusieurs directions.
Mais on sent quand même dans cette époque un peu charnière une série de fragilité, cette, donc encore une fois la mort de Barthes, vos parents qui vous coupent un peu les vivres parce qu'ils auraient voulu vous voir faire l'ENA ou au moins ou normal et que vous choisissez et que travailler sur Tintin, c'est peut-être pas très sérieux.
Non, c'est plus pas avec sérieux Roland du tout. Barthes. Et puis ça va me mener nulle part, c'est-à-dire que pour mes parents, mon père était un fonctionnaire extrêmement attaché à une forme de sécurité. Moi, je lui dis très tôt que la liberté me paraît une valeur infiniment supérieure à la sécurité. Et ils ont l'impression que je vais être, je sais pas, un vagabond, enfin, qu'on ne va pas pouvoir se faire une vie, fonder une famille, enfin, faire les choses qu'ils jugent, eux, normales. Et donc, je peux comprendre rétroactivement leur désarroi. Mais rien n'aurait pu m'arrêter.
Même une sorte de déconvenue, peut-être avec les éditions de Minuit, parce que le deuxième roman que vous écrivez, La Bibliothèque de Villers, est refusé, je crois, par Jérôme Lindon.
Alors Jérôme Lindon est quelqu'un qui adorait prendre un auteur, le découvrir, et puis refuser son deuxième livre. Mais je ne le savais pas à l'époque, mais il y a énormément de témoignages là-dessus. Pour mieux prendre ensuite, thèse, antithèse, synthèse, pour mieux prendre ensuite le troisième. Il se trouve que, avec l'immense admiration que j'avais pour Jérôme Lindon, et qui est toujours là, hein, qui est très très grande figure de l'édition, le père ou le parrain de la loi sur le prix fixe du livre, etc., j'avais un tempérament assez énergique. Et donc, quand Lindon me dit « Bon, ben non, ce deuxième livre, ce n'est pas ce que j'attendais de vous, et donc, écrivez-en un troisième et nous verrons. » Je lui dis, mais vous croyez que ça s'écrit comme ça, un roman bien, si vous n'en voulez pas, je le publierai ailleurs. Il me dit, mais je vous interdis de le publier ailleurs, vous avez une clause de préférence. Et donc, qui engageait, en fait, pour les romans suivants. Et alors, je lui dis, mais alors, avec une vigueur que je regrette quand même à moitié, je lui dis, c'est ce que nous verrons. Et donc, nous sommes brouillés, on peut le dire, nous l'avons été pendant plusieurs années, et nous nous sommes réconciliés quelques années plus tard grâce au travail de récits photographiques, de romans photos que je vais faire avec Marie-Françoise Plissard, qui me vaudra de revenir aux éditions de Minuit. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment un peu douloureux. Ce deuxième roman est paru ensuite dans une collection littéraire chez Robert Laffont, mais il y avait eu une coupure, oui, et c'est vrai que ça faisait peut-être un peu beaucoup. La mort de Barthes, le refus de Lindon, le fait de quitter Paris pour Bruxelles, il y avait peut-être quelque chose d'un peu étrange, et il y a peut-être eu de ma part à ce moment-là le deuil du roman, le deuil d'une carrière littéraire. Pourquoi, je ne sais pas, parce qu'en un sens, j'étais bien engagé, j'avais publié mon premier roman à 20 ans, même si c'était pas un succès, c'était remarqué, c'était repéré. Le deuxième roman était plutôt bien accueilli, mais je ne sais pas, peut-être quelque chose dans la vie d'écrivain, dans une certaine solitude, une certaine austérité, ne m'aurait pas correspondu. Peut-être quelque chose dans le milieu littéraire. J'avais eu le sentiment, à un moment, peu après la parution d'Omnibus, mon premier roman, d'écrire pour un microcosme, pour un petit groupe de gens qui partageaient les mêmes références que moi, qui avaient lu les mêmes choses. Et quand je me suis engagé dans la bande dessinée, une des joies a été de découvrir un vrai public, de vrais lecteurs, de vraies lectrices, des gens qui n'étaient pas du milieu. Il y avait peut-être quelque chose d'un peu étouffant dans ce petit monde littéraire, mais avais-je conscience de tout ça ou est-ce que je le reconstruis maintenant? Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai plus écrit réellement de romans depuis le début des années 1980.
Je voudrais qu'on s'arrête à un moment, Benoît Peter, sur ce travail du roman photo. Roman photo, photo-roman, avec ou sans trait d'union, narration photographique. Quand vous vous lancez dans ce travail avec Marie-Françoise Plissard, le roman photo est quelque chose d'un peu dénigré. C'est des bluettes sentimentales, c'est des choses très populaire, encore une fois, mais peut-être pas dans le bon sens du terme. Qu'est-ce qui vous pousse? Est-ce qu'il y a encore une forme de provocation? Comment vous vous lancez dans cette aventure?
Oui, tout part en fait de circonstances, de rencontres. Une relation amoureuse, d'abord à distance, entre Paris et Bruxelles, puis je viens m'installer à Bruxelles. Marie-Françoise est une jeune photographe, dont j'apprécie le travail aussi, et je lui dis, on devrait essayer de faire quelque chose ensemble, de raconter avec des photos, comme la bande dessinée raconte avec des dessins. Sauf que la bande dessinée, c'est un monde déjà installé, institué, reconnu à sa façon, alors que le roman photo, c'était l'appellation vraiment péjorative par excellence. Mais nous partons à nouveau avec ingénuité. On se dit, mais qu'est-ce que ce serait de raconter avec des photos sans intention parodique et sans s'inscrire dans une forme sentimentale premier degré. Et donc, on essaie de comprendre comment ça marche. On n'avait pas de référence du tout et on bricole des récits courts. Je me souviens d'en avoir montré un à Barthes qu'il avait regardé avec curiosité. Je ne savais pas qu'il était en train d'écrire La Chambre claire sur la photo. Et puis, Marie-Françoise Plissard va montrer à Jérôme Lindon aux éditions de Minuit les premiers récits qu'on avait faits. Il est séduit, mais nous nous disons non, ça ne peut pas faire un livre, c'est trop léger, c'est trop petit. Et donc, fort de son approbation, en tout cas pour Marie-Françoise, puisque mon nom n'était presque pas prononçable à ce moment-là, on se lance dans un récit plus long, une intrigue policière assez complexe qui va devenir le livre Fugue, qui est remarquable. Mais dont nous sentons certaines carences, peut-être une écriture encore un peu trop proche de la bande dessinée, et nous décidons à ce moment-là de nous lancer dans quelque chose de plus libre, un long récit sans texte, une fiction labyrinthique et érotique en même temps. Lindon voit le livre, nous dit c'est magnifique, mais il n'y a pas un mot, les gens vont le feuilleter. Ils ne vont pas l'acheter, ils le reposeront en librairie parce qu'ils ne verront pas que ça mérite d'être lu. Il faudrait un texte. Ah, je lui dis, mais tout le projet, gros. Oui, mais il faut un texte, au moins une préface, je ne sais pas, Duras, enfin. Et puis je dis, bon, je ne vois qu'une personne qui pourrait faire ça, c'est Jacques Derrida. Et là, je vois un grand sourire se peindre sur le visage de Jérôme Lindon, qui dit, très bien, mais revenez avec une préface de Derrida et je publie le livre. Et là, nous prenons rendez-vous, j'écris à Derrida, sollicitant un rendez-vous pour lui montrer la chose, c'était un manuscrit assez imposant. Et alors, il a le tort, si j'ose dire, tactiquement, de laisser la porte entrouverte, me permettre de glisser un pied. Mais il dit, bon, je suis très très occupé, je suis débordé, je ne pourrais hélas pas écrire. Mais vous m'avez rendu curieux de votre travail et voyons-nous. Donc nous arrivons, je ne sais plus si c'était dans son bureau de l'école normale supérieure ou au bar du Lutetia. Et il regarde, alors pas comme un don, il regarde très très attentivement, véritablement. Il le lit page après page, il nous dit cette phrase qui nous reste, c'est d'une violente beauté. Ah, si j'avais le temps, j'écrirais volontiers quelque chose. Et alors on lui dit, ben, le temps, prenez-le, nous vous attendrons. Et donc, près d'un an après, il nous appelle, et il dit, voilà, ben, ça a pris des proportions que je ne m'attendais pas, c'était plus une préface, j'en suis à 70 pages. Et donc, nous pouvons revenir chez Jérôme Lindon avec le livre qu'il publie, qui est traduit, qui va vivre dans plusieurs langues. Nous accompagnerons plusieurs fois Derrida. Et donc, c'est le développement d'une relation avec quelqu'un qui nous fait un cadeau, qui nous fait un cadeau extraordinaire et qui ne peut pas imaginer une demi-seconde que ce jeune homme, avec sa compagne et ce drôle de livre, que ce jeune homme, un jour, écrira sa biographie et saura sur lui des choses que même ses proches ne savaient pas. C'est une ironie du destin, c'est comme une dette payée à très long terme. On peut se dire que cette aventure du roman photo, non seulement a donné naissance à cette énergie avec Marie-Françoise Plissard, à ces créations communes où nous partagions tout, mais aussi à créer ce lien à distance avec Jacques Derrida.
On reparlera certainement un peu du roman photo, puisque dans tous les travaux que vous avez faits, dans la bande dessinée, dans le cinéma, il y a un lien entre la narration et l'image, et le traitement et le statut de l'image. En un mot, pour finir cette émission, vous avez fait donc plusieurs romans photo avec Marie-Françoise Plissard. Finalement, on peut dire que le genre n'a pas vraiment pris aujourd'hui, il y a pas beaucoup de romans photo, il y a encore quelques maisons d'édition qui font des choses intéressantes peut-être. Comment est-ce que vous expliquez l'échec du genre ou peut-être est-ce qu'il y a quelque chose de non pertinent dans le roman photo, quelque chose qui ne marche pas ?
Alors je ne crois pas du tout que ça tienne à la forme même. La narration photographique reste, à mon avis, une forme intéressante. Il y a d'ailleurs aujourd'hui encore des tentatives. Par contre, ça n'a jamais trouvé sa place en librairie, en bibliothèque. C'était au départ un produit de presse populaire. Il y a eu un regain d'intérêt d'ailleurs. Le MUCEM, il y a quelques années, a consacré une grande exposition au roman photo dans sa diversité. Mais contrairement à la bande dessinée qui s'est construite peu à peu comme un domaine avec ses libraires, ses spécialistes, ses genres, ses sous-genres. Le roman photo n'a donné lieu qu'à des initiatives dispersées. Jérôme Lindon, quand il nous publiait, dans une période où, sur le plan romanesque, il ne trouvait pas exactement encore ce qu'il voulait, pensait qu'il y allait avoir un afflux de projets. Il n'y a pas eu cet afflux. Une bande dessinée, c'est quelque chose qu'on peut mettre en œuvre de manière relativement légère et simple. Pensons à Marjane Satrapi au moment où elle se lance dans Persepolis avec un dessin encore rudimentaire, mais une force narrative. Et elle veut le raconter, elle va aller au bout de son projet. Un roman photo, c'est déjà un peu comme une production cinématographique, c'est tout autre chose, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à concrétiser.
Eh bien, nous parlerons de bande dessinée demain, Benoît Peter, c'est d'une autre relation particulière qui vous a occupé, l'amitié avec François Skuyten, puisque nous parlerons des cités obscures. Merci Benoît Peters. C'était À Voix Nue avec Benoît Peters, réalisation Angélique Thibault, prise de son Frédéric Kérou, chargé de programme Daphné Abgral. Une série d'entretiens menée par Victor Massé de Lépinay à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.
Vous êtes bien sur France Culture.
Chanteuse et compositrice, Keren Ann partage et commente 20 poèmes qui l'accompagnent dans sa vie et son écriture.
Parfois, André Chédid arrive à verbaliser des questionnements et des craintes. C'est presque pour nous rassurer. Moi, elle arrive à me rassurer.
L'instant poésie de Keren Ann, du lundi au vendredi à 21h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Prendre la parole en public, se préparer au grand oral, défendre ses arguments lors d'un débat, déclarer sa flamme. Bien parler et savoir se faire entendre, ça s'apprend.
Je vais vous parler de 5 techniques rhétoriques qui permettent de donner écho à son indignation pour essayer de faire en sorte que ça ne reste pas juste des paroles en l'air.
Ma parole, s'indigner avec Salomé Sacquet, un podcast réalisé par Véronique Samouilov.